Eh bien, nous sommes dans un cadre plutôt vertueux, déjà parce qu'on entend les oiseaux, mais également aussi, on évoque tout ce qui concerne quelque chose maintenant qui effectivement monte en puissance à travers les ressources, les matériaux, le réemploi, un peu tout ce qui doit donner un peu des signes pertinents pour l'avenir. Et je suis donc en compagnie pour Aplomb et Ecomat de Yannick Bresse sur le site. Bonjour Yannick.
Bonjour.
Et également à mes côtés Marlène. Marlène, vous êtes stagiaire.
Oui, bonjour.
Tout comme Michel. Bonjour Michel.
Bonjour.
On peut déjà revenir un peu sur cet aspect très structurant qui a fondé, dont justement vous êtes cofondatrice Yannick, sur ce site Ecomat. Plusieurs axes qui ont été définis depuis un certain nombre d'années. Vous avez anticipé pas mal des choses parce qu'on parle maintenant beaucoup de réemploi. Et là, vous êtes vraiment dans la course depuis un certain nombre d'années.
Donc on a commencé en 2009, mais sur la formation bâtiment. On était plutôt penché sur le patrimoine au départ et on s'est rendu compte petit à petit que le patrimoine et le réemploi et l'éco-construction c'était lié parce que le réemploi ça existe depuis que le monde est monde et que les architectures traditionnelles elles étaient faites avec des matériaux de réemploi aussi. Donc on a d'abord commencé par, comme je vous dis, par le patrimoine. Ensuite on est allé sur l'éco-construction mais en restant sur la formation. Et au bout d'un moment on s'est rendu compte que pour faire valoir le réemploi, il fallait aller plus loin que la formation, il fallait peut-être essayer de monter une initiative qui mette en valeur le réemploi et qui le mette en pratique. Et donc, depuis 2015, on essaye de mettre en pratique le réemploi. Et c'est à travers un chantier vraiment plus important autour de 2020 qu'on a réussi à répondre à un appel d'offres public pour déconstruire vraiment un grand bâtiment. C'est à partir de là que finalement, notre activité est devenue économiquement relativement viable.
On peut dire qu'il y a deux axes principaux qui structurent l'association. C'est un régime d'ailleurs associatif.
Oui, tout à fait, c'est un régime associatif. Donc c'est une association donc, au départ sur la formation et puis qui a créé une initiative sur le réemploi. Donc effectivement, on peut dire qu'il y a deux axes. Le réemploi étant un axe plus récent, mais qui aspire à devenir florissant. Dans la formation, on est tenu à une certaine rigueur puisqu'on est certifié Calliope, c'est-à-dire qu'on peut bénéficier des subventions et des financements publics. Et donc, par le fait, la formation est quand même plus professionnalisée et plus structurée et parce qu'il y a un cadre qui existe. Oui. Tandis que dans l'emploi, le cadre n'existe pas encore et c'est vraiment quelque chose de vraiment neuf et c'est en train de se structurer en tant que filière. Donc il y a beaucoup de possibilités, mais ce n'est pas encore aussi structuré qu'on le voudrait, mais on participe parce qu'on fait partie de plusieurs mouvements qui essayent de structurer l'ensemble.
Alors quand on évoque la formation autour du patrimoine, c'est différents modules, il y a différents types de formations.
Au début, on a commencé par des petites formations courtes pour des professionnels. Et puis, petit à petit, on est venu à des formations qualifiantes. Donc, on a trois formations qualifiantes, c'est-à-dire qui donnent accès à un titre professionnel, donc niveau CAP. Donc le premier, c'était ouvrier professionnel en restauration du patrimoine, ensuite ouvrier professionnel en éco-construction, et puis ensuite technicien valoriste des ressources du bâtiment.
Alors là, je ne l'ai pas précisé au départ, mais on est à Saint-Apollinaire, on est donc sur les hauteurs face au Vercors. Mais d'autres sites sont aussi gérés par cette association Aplomb.
Eh bien oui, parce qu'au départ, on est parti de Saint-Bonnet-de-Chavagne, Saint-Marcellin, et puis finalement, on se retrouve avec trois lieux de formation, CRA, donc plus près de Tulin, Saint-Apollinaire, ici près de Saint-Marcellin, et Die, donc beaucoup plus loin finalement, parce que du fait des appels d'offres de Pôle emploi, on a eu l'opportunité de répondre avec le Greta de Die, et donc on est installé aussi au Greta de Die.
C'est une demande aussi en tâche de fond, le fait d'avoir de la main-d'œuvre de restauration autour du patrimoine, il y a des débouchés ensuite
Disons que les débouchés, on les a aussi créés, puisqu'on a former des gens qui ont monté leur entreprise et donc finalement on est en train de créer un réseau d'entreprises qui sont sensibles à la restauration du patrimoine et à l'éco-construction et finalement aussi au réemploi. Donc je pense que finalement on pouvait pas dire au départ que c'était couru d'avance, mais au fur et à mesure, puisqu'on a tenu le coup et qu'on a été persévérant, je pense qu'on a créé ce réseau.
Alors justement, pour ce qui concerne les contenus, quand on évoque formation du patrimoine, Qu'est-ce que ça concerne exactement? Alors peut-être un petit mot déjà, vous voulez introduire, et puis ensuite peut-être Marlène pour donner un côté très pratique de ce qui se passe dans les différentes formations.
Alors bah, sur la formation sur le patrimoine, ça va des fondations jusqu'à la toiture, la couverture, la zinguerie, en passant par la taille de pierre, la terre, donc le pisé, les enduits... Je crois que j'oublie peut-être des choses, mais voilà, et la charpente, voilà. La charpente, voilà.
Il y a toujours quelque chose d'historique en tâche de fond, puisqu'on évoque le patrimoine, ou pas forcément?
Alors, nous, on s'occupe plutôt du petit patrimoine, comme on dirait, c'est-à-dire du patrimoine que les architectes appellent vernaculaire, c'est-à-dire qui est plutôt patrimoine de subsistance, des fermes, des lavoirs, des fours, des choses comme ça, qui ne sont pas classées aux monuments historiques, mais qui ont une valeur patrimoniale collective, disons.
Il y a un certain nombre de champs d'activité quand on évoque ce type de formation. On peut imaginer Marlène, entre bien les matériaux, puis tout l'emploi et la main-d'œuvre qui est suggérée derrière.
Oui, effectivement, c'est très large. Appelons à cette spécificité et cette expérience de pouvoir transmettre en fait des compétences qui va beaucoup dans le bâti ancien, et qui aujourd'hui est voué aussi à aller dans le bâti assez récent, avec cette nouvelle formation du coup TVRB qui s'est montée récemment. Effectivement, les compétences sont assez larges.
Ouais. Il y a des prérequis où quelqu'un d'ingénu peut parfaitement intégrer la formation, où il faut avoir un petit peu du métier?
La formation TVRB que je suis actuellement nécessite... un niveau CAP, enfin prérequis est un niveau CAP et est équivalente à un niveau bac, puisqu'on devient donc effectivement technicien. Cette formation, donc, elle est spécifiquement sur la filière du réemploi. Donc.
Également, Michel, vous faites partie de la même formation, hein. Qu'est-ce qui vous a amené à pousser les portes de l'association Emploi?
Oui, alors, concrètement, moi j'ai été licencié donc en octobre 2022. Donc dans ma recherche d'un nouveau métier, je voulais à la fois associer mes compétences de mes différentes vies professionnelles. Et puis, c'est assez curieux parce que le réemploi, c'est un terme que je connaissais pas lorsque j'ai cherché donc une formation pour pouvoir associer mes compétences et une nouvelle découverte, et j'ai tapé donc le mot recyclage sur le moteur de recherche de Pôle emploi, et puis un jour est apparue cette formation, et là je me suis dit ça y est, j'ai trouvé la bonne case où je vais pouvoir avoir une nouvelle vie professionnelle qui associe à la fois il y a quelque chose de l'ordre du militantisme presque, enfin quelque chose qui colle avec des valeurs.
Oui.
Hein. Et je trouve exactement ça hein, dans cette formation, dans cette...
Vous étiez dans ce même métier auparavant, dans ce type de...
Alors, j'ai travaillé dans le domaine du bâtiment avec beaucoup de chefs d'entreprise parce que je travaillais, j'étais technico-commercial dans une entreprise qui proposait des systèmes de protection pour les chutes de hauteur. Donc, je travaillais avec beaucoup de petits artisans, menuisiers, storistes, mais aussi des plus gros comme Eiffage, etc., qui avaient des besoins ponctuels. Et puis j'ai toujours eu beaucoup de respect, d'intérêt pour les métiers du bâtiment, qui sont des métiers souvent qui ne sont pas reconnus à leur juste valeur. Et lorsque j'ai appris que le bâtiment générait 70% des déchets globalement, et là j'ai trouvé que ça donnait pleinement sens, cette notion de réemploi, avec ce qui m'habite. Ouais. Et puis retravailler, parce que c'est quand même important pour moi, même si j'ai encore quelques années et j'ai envie de travail, j'ai envie que ce soit des années riches.
Alors que se passe-t-il au sein de cette formation ?
Alors la formation TVRB, elle vise à former des personnes qui soient un petit peu polyvalentes. Le but, c'est de former des personnes autant à savoir diagnostiquer sur un bâtiment ce qui peut être encore des ressources et qui peut faire l'œuvre de réemploi ou de réutilisation, pour ensuite savoir les collecter, puis les reconditionner et enfin du coup les valoriser, les revendre du coup sur une plateforme par exemple comme on voit ici à Icomat. C'est très large,
oui.
C'est une formation qui se fait en 7 mois donc ça reste assez court et finalement on voit toute l'ampleur du champ des possibles qu'offre cette nouvelle filière du réemploi. On apprend surtout qu'il y a encore beaucoup de choses à construire, encore aujourd'hui, et à mettre en place. La formation TVRB, elle est effectivement ouverte à tous. Les prérequis sont surtout qu'on s'intéresse au bâtiment et qu'on s'intéresse à cette nouvelle filière du réemploi. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on voit dans notre formation, c'est qu'on a autant des gens qui, effectivement, venaient de ce milieu du bâtiment, qui étaient soit artisans, soit architectes, et autant des personnes qui n'avaient jamais vraiment eu de lien avec le bâtiment, pas du tout, mais qui avaient eu des expériences très différentes, que ça pouvait être commercial, ça pouvait être dans l'agroalimentaire, ça peut être même du saisonnier. Vraiment, c'était des expériences très, très différentes et très disparates, et au final, ce qui compte, c'est que derrière, il y a cet engouement de vouloir, on va dire, faire aller les choses dans le bon sens, développer en fait des nouvelles manières de construire.
C'est l'État qui a décidé de nouvelles directions, quoi. C'est-à-dire que chacun puisse être responsable des déchets qu'il produit, et en particulier les producteurs de matériaux. Donc la REP, responsabilité élargie du producteur, qui est déjà en activité depuis cette année, et qui donc consiste à ce que tous les producteurs, même du bâtiment, soient responsables des déchets qu'ils vont produire à la fin de la vie du matériau. Donc du coup, c'est grâce à cette réglementation et évidemment motivation de toutes sortes d'associations comme la nôtre, on espère que le monde va changer.
Donc vous êtes un support local, on peut imaginer qu'en France, il y a d'autres, vous avez des structures homologues.
Tout à fait, et il y a même une association, une fédération qui s'appelle, je ne me rappelle plus comment, tu ne te souviens plus, une fédération nationale, et puis une fédération même régionale qui est plutôt sur l'insertion et le réemploi, et comment on peut associer insertion et réemploi, qui s'appelle le SPREC, c'est le syndicat des entreprises qui concourent au réemploi. Le SPREC, c'est national, et régional, c'est Fabricanova, qui réunit des entreprises d'insertion et des chantiers d'insertion qui s'intéressent justement au réemploi, au recyclage.
À la base, il y a la fameuse loi AGEC, AGEC, loi anti-gaspillage et pour l'économie circulaire. Donc là, à partir de là, maintenant, toutes les chantiers qui dépassent 1000 m² doivent donc faire l'objet d'un diagnostic. Ouais. Et donc, c'est fini, quoi. Le temps où tout partait à la benne, c'était interdit. Il y a deux grandes filières. Il y a donc la filière, ce qu'on appelle du recyclage, où là, c'est des déchets qui sont catégorisés, et puis où il y a donc un recyclage qui va s'opérer. Et puis, donc, nous, l'objet de notre formation, donc, c'est le réemploi. C'est-à-dire que, les radiateurs, les extincteurs, les fenêtres, les charpentes, enfin, tout ce qui peut être réemployé fait l'objet d'une étude. Et ça débouche donc sur une déconstruction sélective. Mmh. Et ensuite, un reconditionnement. Et ensuite, une nouvelle vie. Donc, soit vendu ou réutilisé, soit sur place directement, sur le chantier, soit pour un autre chantier, par l'intermédiaire pendant d'une plateforme, comme ici, à Icomat.
Donc voilà tout l'objet de redonner une vie, et dans les normes aussi, parce qu'il y a vraiment un côté très normé dans le bâtiment et le réemploi, qui fait que ça demande un peu des spécificités.
Oui, surtout que c'est des normes européennes, donc ça va être quelque chose qui doit avancer partout en même temps, dans tous les pays en même temps. Donc il y a des domaines où c'est assez simple, parce que dans le bois, par exemple, la certification des bois, elle peut se faire par des méthodes visuelles, où on observe le bois, on a des critères, je crois qu'il y a une vingtaine de critères, et c'est faisable. Par contre, tout ce qui va être les matériaux industrialisés, ça sera plus compliqué, parce qu'il faut trouver de nouvelles voies de certification et de normalisation.
On y revient dans quelques instants, peut-être toucher un mot d'autres formations qui ne sont pas forcément enseignées aussi sur le site de Saint-Apollinaire, il y a d'autres formations qui courent dans les autres sites autour de la construction.
Voilà, donc les formations qui s'appellent OPEC, ouvriers professionnels en éco-construction, il y en a une à Die et une à CRA. Et donc, c'est des formations plutôt sur l'ossature bois, l'isolation, l'étanchéité à l'air, qui sont aussi polyvalentes. Nos trois formations sont des formations polyvalentes, c'est-à-dire où on essaye de couvrir un peu l'ensemble de la construction et de pouvoir s'insérer à différents endroits. Donc, c'est vrai que pas toutes les entreprises sont ouvertes à cette polyvalence. En particulier les grandes entreprises, les entreprises de grande taille, ce n'est pas ce qui les intéresse. Mais les entreprises artisanales, elles sont intéressées par nos profils parce que c'est des profils polyvalents justement et qui peuvent s'adapter à différentes situations. Et puis on a des formations courtes aussi, des formations courtes pour des professionnels qui veulent se spécialiser, faire un petit peu, celle qui marche le mieux ça va être la zingerie, parce qu'on a, ça peut être initiation zingerie ou alors perfectionnement, donc le perfectionnement c'est presque infini les possibilités. Ensuite on a aussi des formations pro paille pour les gens qui veulent apprendre à construire en paille, que ce soit des architectes pour le dessiner ou des charpentiers pour le pratiquer. Et puis on a toutes sortes d'autres choses, de l'enduit terre, enduit chaud, enduit plâtre.
Avec exemple à l'appui, puisque nous sommes sur le site à Saint-Apollinaire, et bien, il est aussi habité par différentes expériences en cours et même réalisées. Hein. Ça donne un peu un panel de vos compétences.
C'est ça. Donc effectivement, nos salles de cours ont été aménagées avec des matériaux de réemploi. Nous sommes en train de construire un four avec des techniques traditionnelles, donc de la pierre sèche, de la limousinerie, du pisé, et puis du réemploi de tuiles mécanique en maçonnerie.
Cela conjugue aussi les professionnels mais également les particuliers.
Oui, ben effectivement, là, on est étonné du nombre de gens qui viennent si loin pourtant chercher des matériaux de réemploi. Et comme vous pouvez voir, ça défile toute la journée. Il y a des gens qui viennent au moins chercher leur bonheur pour restaurer leur maison en général.
Marlène, d'ailleurs, vous me faisiez visiter le site avec parfois des gros lots à disposition. Donc, il y a plusieurs champs d'application entre les particuliers, les professionnels. Donc, vous êtes un petit peu dans la gestion de tout ça.
C'est ça. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'enjeu des personnes qui veulent monter des plateformes de revente de matériaux de réemploi, c'est de savoir à qui ils s'adressent et donc à qui ils veulent revendre. Ce qu'on constate, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de structures qui existent pour revendre aux particuliers. Parce que effectivement, c'est pas soumis à des normes. Mais le but, c'est que petit à petit, en fait, le milieu s'adresse de plus en plus aux professionnels. Et donc là, on va plutôt essayer de revendre, on va dire, des lots de matériaux, donc des quantités plus importantes. Mais cet enjeu, il est finalement un peu autant au niveau d'une plateforme qui revend des matériaux de réemploi, mais autant aussi en fait dès le début des constructions. C'est un travail en fait qui doit déjà être envisagé au niveau des maîtrises d'œuvre et qu'elles discutent en fait avec les maîtrises d'ouvrage pour mettre en place ce travail-là et cette exigence-là, si on a le souhait en fait d'acheter moins de neuf et de justement construire avec des matériaux issus par exemple directement de la démolition qui est en cours ou des matériaux de réemploi qu'on sera allé chercher à l'extérieur. Localement, bien évidemment, de préférence.
C'est dans la conception des bâtiments et dans la technique qu'on va choisir au moment où on construit, de prévoir que si un jour ça doit être démoli, qu'on puisse le réutiliser. Et ça, je pense que c'est une autre marche qu'il faudrait que la maîtrise d'œuvre passe cette marche. Et par exemple, de poser des tomettes sur de la colle, ça fait qu'on ne pourra plus jamais réutiliser les tomettes. Alors que le système ancien qui était avec des chapes fraîches à la chaux, on peut réutiliser éternellement les tomettes. Donc je pense que c'est une réflexion vraiment globale, plus globale que ça, et qui part de la conception.
Voilà, donc les architectes, ça va peut-être les faire un peu réfléchir, tous ceux qui conçoivent des bâtiments, à savoir que tout peut être démantelé, modulable en fait.
Oui, tout à fait. Il y en a déjà qui commencent à s'emparer de ces sujets-là, mais c'est un sujet qui est difficile à appréhender au départ, parce qu'on se confond du coup tout à cet aspect normatif qui est présent. Et surtout, on a besoin de convaincre les bureaux d'études et les assurances du bien fondé de réemployer tel matériau ou et en vérifiant que ces qualités n'ont pas été altérées avec le temps. Mais c'est possible et c'est ce que font déjà mettent en place des gens. Et il y a des structures qui se spécialisent dans l'assistance à maîtrise d'ouvrage ou l'assistance à maîtrise d'œuvre pour les conseiller et les accompagner dans cette démarche. C'est en cours et ça va, on l'espère, se démocratiser.
Voilà, donc il y a le magasin juste à côté, bien sûr, on rentre dedans, voilà, à côté de l'église de Saint-Apollinaire, on peut l'entendre. Et ce magasin, on a l'impression d'avoir affaire à du neuf. Hein. C'est un peu tout l'enjeu de bien remettre en circuit, finalement, les matériaux qu'on vous apporte. Il y a plusieurs étapes avant que ça reparte dans les rayons avec... bien, toutes les normes qu'il faut et tout ce qu'il faut pour que ce soit revendu.
Alors, c'est l'enjeu, effectivement. L'enjeu d'aujourd'hui, effectivement, c'est de rendre le réemploi attrayant en mettant en place, une présentation des matériaux qui soient conditionnés un peu comme on les voit dans les magasins où quand le consommateur vient pour acheter son matériau, il a toutes les informations qu'il a besoin à sa disposition. Donc ça nécessite pour ça de mettre en place du coup une traçabilité de ce matériau, donc de le caractériser au départ quand on le récupère, de trouver les informations à son sujet ou de nous-mêmes en fait les caractériser en prenant ses dimensions, son poids, en repérant du coup quel type de matériau on a. Et ensuite, il y a un travail de ce qu'on appelle de reconditionnement. Donc parfois, par exemple, on peut se dire que ça vaut le coup de, par exemple... retailler du bois ou venir raboter du bois pour le remettre en œuvre après, suivant en fait le besoin du client. Et donc ça, c'est quand c'est l'œuvre aussi, ce que je vous expliquais effectivement tout à l'heure dans le magasin. Finalement, c'est aussi un des objectifs futurs, c'est de mettre en place des processus d'autocontrôle où on va pouvoir dire, par exemple, ce lavabo il est arrivé, on a fait en place ce nettoyage, on a vérifié l'étanchéité, on a coché tout un tas d'étapes qui nous permet de garantir au client que il va pouvoir l'utiliser dans de bonnes conditions ou en tout cas sous des conditions qu'on lui a, on lui aura spécifiées. Donc voilà, ça c'est des processus qui doivent se généraliser de partout. Donc effectivement, il y a des structures qui travaillent dessus, notamment par exemple je pense à Réavis, chez qui l'un de nos collègues TVRB est allé en stage, qui a appris cette compétence-là. Et donc le but c'est de généraliser ça à tous les matériaux.
Donc un certain nombre de critères, on voit bien hein, la fiche avec toutes les cases cochées pour répondre donc à l'usage.
C'est ça, et donc ça répond aussi au fait que le réemploi n'est pas gratuit. Il y a quand même tout un tas de travail derrière pour pouvoir le proposer de nouveau en vente. Donc il peut être certes moins cher que le neuf, mais pas forcément. Et c'est pour ça que la sensibilisation, elle est très importante en fait autour de ces sujets-là. C'est de montrer que demain, il y a des nouveaux métiers qui sont possibles et un nouveau travail pour créer, pour vivre dans une économie circulaire, vivre dans une économie où on ne jette plus et où on donne des secondes vies aux matériaux. Et donc en fait, pour tout ça, ça fait de nombreuses étapes et du boulot et de la main-d'œuvre. Ça peut être moins cher le réemploi, mais pas forcément. Et c'est important du coup que les gens en aient conscience, que c'est une valeur ajoutée et de l'expérience qui est derrière.
Il faut faire attention aussi que le prix du neuf risque d'augmenter pour tout ce qui est cuit. Donc après, il y a ça. Y a ce qui est en bois, c'est pas forcément augmenté, mais tout ce qui est cuit, ça va forcément augmenter puisque le prix de l'énergie va augmenter. Donc pour le moment, on est à un moment où on n'est pas forcément moins cher, mais il faut se préparer. Quand l'énergie sera vraiment plus chère, pour que ces circuits existent. Parce que s'ils n'existent pas, on n'aura rien. Donc il faut absolument se préparer.
Quand vous dites ce qui est cuit, ça concerne
Par exemple, les tuiles, tout ce qui est terre cuite, tout ce qui est les grès, tout ce qui est justement la plomberie, les céramiques, qu'est-ce qu'il y a d'autre, tout ce qui est métal.
Oui. Ce qui nécessite beaucoup d'énergie en fait, à produire. Voilà. C'est-à-dire qu'on a besoin de chauffer à des milliers de degrés. Voilà. Et donc, du coup, on a besoin d'une grosse énergie pour faire ça. Et demain, on ne sera plus en capacité de le faire autant qu'on le fait maintenant.
Et ce qui n'est pas seconde viable, si je puis dire, quelque chose qui ne peut plus repartir en circuit, qu'est-ce qu'il devient ?
Par exemple, en fait, l'exemple que connaît tout le monde, c'est l'amiante, souvent. On sait qu'il n'est plus autorisé d'installer ou de mettre en place des matériaux qui contiennent de l'amiante. Et aujourd'hui, les chantiers font l'œuvre de désamiantage au tout départ, à chaque fois qu'on doit réhabiliter un bâtiment, par exemple. Et donc l'amiante est enfouie actuellement. Et ça fait partie par exemple des matériaux effectivement qu'on sait qu'on ne va pas du tout chercher de nouveaux exutoires, on ne va pas chercher à le réemployer, le réinstaller.
Par contre, il y a d'autres matériaux qui ne sont pas réemployables tels quels, mais qui peuvent être réutilisables dans d'autres fonctions. Oui. Donc par exemple, là, comme je vous disais tout à l'heure sur le four, les tuiles, elles ne peuvent plus être utilisées en toiture parce qu'elles sont poreuses. Par contre, on peut les utiliser en maçonnerie. On peut aussi les broyer et les utiliser comme paillage minéral.
De même que aussi, par exemple, un évier qui ne pourrait pas être remis en circuit et revendu avec ses critères, est-ce qu'il peut avoir une autre vie ?
Oui, tout à fait. C'est-à-dire que, par exemple, si on voit que l'étanchéité est plus très bonne au niveau de partout sur l'évier, on sait que peut-être c'est un évier qui peut être au fond d'un jardin de quelqu'un, chez un particulier, ou s'il y a une petite fuite, en fait, ce n'est pas grave. Donc c'est pour ça qu'il y a à chaque fois un boulot important de bien, du coup, caractériser et reconditionner ces matériaux pour pouvoir dire au client dans quelles conditions il peut être remis en œuvre. Et donc c'est là où on fait la différence aussi entre le réemploi et la réutilisation. Le réemploi, donc, techniquement, du coup officiellement, les définitions sont que le réemploi n'est pas encore un déchet, n'a pas passé le statut de déchet, et qu'on peut le remettre en œuvre pour ses fonctions initiales. Alors que la réutilisation, c'est un matériau qui peut avoir passé le statut de déchet et que là, on va peut-être remettre en œuvre, mais de manière différente de cette fonction.
Alors comment ça se passe pour apporter justement tout ce qui est matériaux à Saint-Apollinaire ? Vous pouvez aussi vous déplacer sur les sites pour recueillir
Alors il y a un peu de deux voies. Il y a des constructions qui sont payées comme telles, c'est-à-dire qu'on demande une rétribution pour la déconstruction sélective parce que ça demande beaucoup plus de soins que simplement mettre à la benne. Donc ça peut être une situation, ou d'autres situations où c'est des gens qui viennent apporter sur place, donc à Saint-Apollinaire, leurs matériaux. Mais il faut nous prévenir à l'avance et nous dire combien on a de choses, en quel état ils sont. Et souvent on va voir pour être sûr, si c'est des grandes quantités, on va voir. Et il y a aussi des entreprises qui se débarrassent de leurs matériaux un petit peu usés en nous prévenant et en nous disant, voilà, on a ça, qu'est-ce que vous pouvez en faire ? Donc c'est pareil, il faut toujours téléphoner pour être sûr.
En tout cas, le magasin est un point d'appui pour tout ce qui est déposé ou alors venir chercher. Comment cela fonctionne, ce magasin Saint-Apollinaire et Comat ? L'image d'un magasin traditionnel.
Oui, magasin traditionnel, pas tout à fait, parce qu'on n'est pas ouvert tous les jours et on a des amplitudes horaires qui sont particulières. Donc, il vaut mieux se renseigner avant. L'idéal, c'est toujours consulter le site internet parce qu'on est pris par d'autres projets aussi, notamment les chantiers de déconstruction sélective, où parfois, justement, c'est l'équipe magasin qui va renforcer l'équipe chantier ou des choses comme ça. Donc, c'est toujours mieux quand même de bien consulter. Mais de manière générale, on est ouvert le mardi, le mercredi matin et le vendredi toute la journée. Le samedi, en ce moment, on a quelques difficultés. Mais voilà, à 10h le matin jusqu'à 13h et puis de 14h à 16h30 pour le mardi, vendredi, samedi et le mercredi matin de 10h à 13h.
Merci Florence. Vous êtes chargée de communication justement de Aplomb et à cet effet, une journée porte ouverte, hein, c'est ça, à signaler très prochainement ?
Oui, très prochainement, le vendredi 23 juin, à partir de 15h, on ouvre nos portes pour partager nos projets et nos perspectives. À cette occasion, on va proposer une visite guidée de la plateforme déjà, parce que du coup, on a eu à cœur de... Alors, on a investi la plateforme il y a à peu près 2 ans, et il y avait beaucoup de travaux à faire, et on a mis à cœur d'utiliser des matériaux de réemploi. Donc l'idée, c'est de montrer aussi et de partager... ce qu'on a fait, on a utilisé des fenêtres qui viennent d'un collège qu'on a déposé à Mélan. On a construit un four à pain avec un mur en pierre sèche, avec des pierres notamment qui viennent d'une maison qu'on a déposée à Saint-Sauveur, donc vraiment à proximité. Donc voilà, je ne sais pas combien il y a de matériaux, mais beaucoup qui ont été déjà réemployés sur le site. Donc c'est l'occasion de montrer que c'est possible, que bâtir autrement c'est possible, que rénover autrement c'est possible. Donc des visites guidées avec différents membres de l'équipe. Et puis on a aussi un forgeron qui va venir sur le site, qui va forger à base de matériaux de récupération, notamment pour forger des clameaux pour le chantier participatif qui est organisé aussi ce même week-end sur le site, d'écarissage de bois vert. Donc c'était l'occasion de partager sa préparation avec le public, quoi. Donc porte ouverte aux particuliers, aux professionnels. On a déjà pas mal de monde qui a dit qu'il viendrait, donc on est plutôt optimiste. Suivi aussi de l'Assemblée Générale de l'association, parce que donc nous sommes une association. On a à peu près 350 adhérents aujourd'hui, mais l'Assemblée Générale n'est pas ouverte qu'aux adhérents. Elle est ouverte aussi aux curieux qui auraient peut-être envie d'en savoir plus sur ce que fait Aplomb et Ecomat 38.
Une association en plein mouvement, je ne sais pas si on l'a précisé, mais un certain nombre de salariés.
Oui, alors on est quand même nombreux comme salariés. Aujourd'hui, on est 24 équivalents temps plein, ah oui, qui représentent 33 salariés.
Dont un nombre aussi de formateurs assez conséquent.
Alors, on a des formateurs, mais on a quand même aussi beaucoup de formateurs qui sont des professionnels en activité. Ça, c'est aussi important pour nous d'être sur ce côté pratique, en fait. On est sur des formations qui sont vraiment basées sur l'application. Donc, des professionnels qui quittent le chantier pour venir former justement nos apprenants.
Ah oui, d'accord. Ils ont comme ça aussi un canevas, une organisation dans l'année où ils sont un peu sur leurs champs respectifs et Aplomb. Donc, ils s'organisent en fonction.
Tout à fait. Et parmi même ces artisans qui nous entourent, on en a beaucoup dans le conseil d'administration, oui, puisqu'on est une association. Donc, on est aussi avec une gouvernance d'association. Donc, voilà.
Merci beaucoup.